Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les jeux vidéo sont-ils suffisamment pris au sérieux? L'e-sport aux Jeux Olympiques, pourquoi pas un jour? Le patron du CIO n'y est pas hostile. Pour Thomas Bach, la pratique de jeux vidéo dans le cadre d'une compétition peut s'apparenter à une activité sportive. Mais pour lui, il y a une ligne rouge infranchissable. Il l'a dit aujourd'hui en Inde, à New Delhi. Pas question d'accepter les jeux violents, contraires à l'esprit de l'olympisme. La violence dans les jeux vidéo, voilà un reproche récurrent dont le secteur a du mal à se défaire. En février, Donald Trump faisait par exemple un lien entre la tuerie de Parkland en Floride et l'influence supposée néfaste de certains jeux sur la jeunesse. À quoi il faut ajouter d'ailleurs un autre grief, le phénomène d'addiction. L'Organisation mondiale de la santé s'apprête ainsi à reconnaître le trouble du jeu vidéo comme une maladie. Pour autant, cela ne semble pas entamer la bonne santé du secteur. Le jeu vidéo est un créneau porteur, le marché mondial a généré 116 milliards de dollars de revenus en 2017. Le marché français, lui, ne s'est jamais si bien porté, en hausse de 18% l'an dernier. C'est dire la place prise aujourd'hui par ce loisir populaire, pratiqué par une majorité de nos compatriotes, mais qui peine pourtant à asseoir sa légitimité. Ainsi, sa reconnaissance en tant que pratique culturelle à part entière est-elle encore à venir? Alors, les jeux vidéo sont-ils suffisamment pris au sérieux? C'est la question du soir en compagnie de trois invités, à commencer par vous, Julie Chalmette, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice générale de Bethesda Softworks, qui édite donc des jeux vidéo. Vous présidez le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, et vous êtes également vice-présidente de Women in Games, qui défend la place des femmes dans le jeu vidéo.
Absolument.
Pour discuter avec vous, Denis Masseglia, bonsoir.
Bonsoir.
Député La République En Marche du Maine-et-Loire, vous êtes le président d'un tout nouveau groupe d'études, le groupe d'études des jeux vidéo à l'Assemblée nationale.
Exactement.
Et vous êtes un ancien gamer, vous avez pratiqué à haut niveau le jeu World of Warcraft, on m'a dit que ça se disait WoW.
Ah. Exactement, c'est le terme qui est utilisé. J'ai joué surtout sur la période de 2006 à 2008.
Troisième invité, Marion Coville, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse au département sciences économiques et sociales de Télécom Paris Tech et vous présidez l'OMNSH, l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Vous intéressez en particulier à la légitimation des jeux vidéo dans le domaine culturel. Mais je voudrais qu'on commence avec vous trois par l'actualité, enfin une des actualités, il y a des sorties de jeux qui sont assez régulières, mais demain c'est celle du jeu God of War sur PS4. Est-ce que c'est un événement dans le monde du jeu vidéo, Denis Masseglia?
Je pense que c'est un événement. Le jeu qui met en avant donc un personnage principal qui s'appelle Kratos, qui est un viking, c'est à la période de viking qui est un dieu, est assez riche et a été assez attendu par la communauté qui apprécie largement cette franchise.
Alors c'est un jeu qui est suffisamment violent pour être déconseillé au moins de 18 ans, en tout cas les précédentes éditions ont l'été, ça l'est encore, même si il semblerait que la version qui sort demain soit un petit peu moins violente que les précédentes justement. Cette recommandation d'éviter de mettre ce jeu entre les mains des moins de 18 ans, c'est une évaluation qui est un système de classification qui s'appelle le PEGI, c'est bien ça, Julie Chalmette?
Absolument, le PEGI est un organisme indépendant qui donne des recommandations pour l'âge minimum requis pour jouer à un jeu vidéo. Donc, certes, tous les jeux vidéo ne sont pas à mettre entre toutes les mains, c'est certain. Et donc, le PEGI définit un âge qui va de 7, 12, 16 ou 18, afin que le jeu vidéo se retrouve entre des publics qui sont prêts à envisager un certain niveau de violence ou de niveau de langage qui peut être utilisé dans le jeu vidéo.
Alors, on est dans un format qui est assez proche, enfin, qui peut rappeler en tout cas ce qui existe pour le cinéma, par exemple. Hein, tous les films ne sont pas accessibles à tous les publics. Marion Coville, est-ce que cette classification, elle fait l'objet d'un consensus aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo? Bien, est-ce qu'il peut y avoir des fois des contestations, comme il y en a justement, notamment dans le cinéma?
C'est pas tant la classification qui va être l'objet de débat. Je dirais que l'un des débats les plus forts dans la communauté scientifique, c'est plutôt lié à cette idée dont on parlait tout à l'heure des effets, notamment avec le discours de Trump, par exemple, que vous venez d'évoquer sur l'idée que les jeux vidéo seraient liés à une tuerie. C'est un discours qui est loin d'être nouveau, qui est très lié en fait aux paniques morales qu'on a eues dans les années 90, qui ont été très étudiées par Olivier Moko, sur cette idée que les jeux vidéo auraient un effet fort, néfaste et direct sur les personnes qui y jouent. Et c'est surtout ça qui a été débattu, puisque ce sont des théories qui sont particulièrement déterministes et qui donnent une toute puissance aux technologies et qui nient en fait toute distance critique et toute capacité d'agir des joueurs et des joueuses.
Mais si cette classification existe, est-ce que ça n'est pas une preuve finalement, peut-être un peu par l'absurde, que certains jeux vidéo peuvent avoir un effet néfaste? Imaginons, alors je reviens sur ce God of War que vous semblez connaître un petit peu, Denis Masseglia, si je le laisse jouer un enfant, je sais pas, de 10-12 ans avec ce jeu-là, qu'est-ce qui se passe?
Je pense qu'il est important de mettre en avant le fait que c'est aux parents aussi de prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un jeu qui est PEGI 18, aux parents de contrôler le type de jeu et après d'accepter ou pas.
Mais alors, PEGI 18, c'est déconseillé au moins de 18 ans.
Exactement. Hein. Après, je veux revenir en avant sur un point. Vous parlez justement du fait que certains jeux sont aujourd'hui préconisés à tel ou tel âge. Moi, je veux rebondir par exemple sur un jeu qui est d'actualité qui s'appelle Fortnite. Qu'est-ce que c'est que Fortnite? C'est un jeu de type Battle Royale. Battle Royale, ça vient de quoi? Ça vient d'un film qui lui-même vient d'un livre. Le livre, tout le monde peut l'acheter. Le film est déconseillé au moins de 12 ans. Et le jeu vidéo est déconseillé au moins de 12 ans. Donc il faut arrêter, je pense, de vouloir dissocier le jeu vidéo de la culture. Le jeu vidéo fait partie intégrante de la culture et utilise les mêmes moyens de communication et de préconisation.
Est-ce que ça veut dire donc qu'il n'y a pas de raison que les préconisations, que les recommandations soient différentes des autres secteurs culturels, mais qu'il ne faut pas peut-être en rajouter, et notamment dans l'impact que peuvent avoir les jeux vidéo sur les esprits et notamment sur la jeunesse, comme le laissait entendre, hein, on revient à ce que disait Donald Trump, j'entends de plus en plus de gens dire que le niveau de violence dans les jeux vidéo forme réellement l'esprit des jeunes gens, Marion Coville.
Alors en fait, il faut distinguer les représentations, donc les contenus qu'il y a à l'écran, et les effets. Et là, on est vraiment sur deux enjeux différents. On a effectivement des études critiques sur les représentations à l'œuvre dans les jeux vidéo, puisqu'on construit aussi une vision du monde. Mais cette critique des représentations qu'on va retrouver dans les jeux vidéo, comme dans le cinéma, comme dans les livres, il ne faut pas la lier directement à des effets sur le comportement des joueurs et des joueuses.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude qui aujourd'hui atteste de ces effets-là?
Ce sont généralement des études qui sont faites dans des champs différents. Et c'est l'un des soucis en fait aujourd'hui, c'est que généralement quand on va parler de la violence dans les jeux vidéo, on va avoir un champ d'études finalement relativement restreint qui va être très mis en avant, qui va plutôt viser, donc ça va plutôt être des études qui vont chercher un lien causal entre les usages et les comportements. On va plutôt être sur des études avec des échantillons assez restreints, avec des approches plutôt issues des sciences cognitives, des neurosciences, avec plutôt une culture de l'expérience, du protocole, du laboratoire. Et ces études-là, donc elles ont vraiment une culture épistémologique particulière, en fait, elles ont deux points aveugles. Le premier, c'est qu'elles vont observer les usages, elles vont observer les comportements, mais elles ne donnent pas forcément la parole aux joueurs et aux joueuses pour comprendre quel est le sens qu'ils donnent à leur pratique. Et le deuxième point aveugle, c'est que, étant donné qu'il s'agit de construire une expérience finalement en dehors de la vie quotidienne, on n'a aucune information sur le contexte de ces usages. Et donc, il y a d'autres champs de recherche, d'autres cultures épistémologiques qui essayent justement de véhiculer une approche compréhensive de la pratique des joueurs et des joueuses et de construire des études en s'intéressant justement au contexte dans lequel ils et elles jouent et au sens qu'ils vont donner à leur pratique.
Alors, quand on a discuté avant d'entrer dans le studio pour parler un petit peu de l'émission avec vous trois, vous m'avez dit, bon voilà, alors la violence... J'espère qu'on va pas passer toute l'émission là-dessus, parce que ça nous saoule un petit peu d'entendre toujours parler de ça. Comment est-ce que vous expliquez, Julie Chalmette, justement, que, enfin, les jeux vidéo, alors certes, c'est une pratique, c'est un domaine qui n'est pas tout à fait récent, mais enfin, ça reste encore une pratique assez jeune dans l'histoire de, par exemple, des pratiques culturelles. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'on en soit encore aujourd'hui à se focaliser là-dessus? Est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, une responsabilité, moi, je sais pas, des politiques, notamment, qui véhiculent cette idée que les jeux vidéo sont un danger pour la jeunesse?
Je pense avant tout que c'est lié à une méconnaissance en fait de ce qu'est le jeu vidéo. En fait, les générations, ma génération, tous les gens n'étaient pas joueurs. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent parents devant un peu démunis face aux jeux vidéo. Ils sont pas capables de s'emparer d'une manette ou d'une souris pour pouvoir eux-mêmes rentrer et mieux comprendre ce qu'est l'univers du jeu vidéo.
Enfin, méconnaissance et en même temps dans les statistiques du CEL, donc cet organisme que vous présidez, le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs, vous précisez que c'est une pratique qui est très très majoritaire aujourd'hui dans la population française.
32 millions de Français jouent aux jeux vidéo.
Alors comment peut y avoir à la fois de la méconnaissance et une telle diffusion des jeux vidéo?
Parce que les jeux vidéo sont, il y a une très large palette de jeux vidéo, donc il y a beaucoup de personnes qui joueront sur leur mobile et puis d'autres. Certains jeux vidéo vont cristalliser les conversations autour de la violence. Et je trouve ça toujours étonnant en fait que le jeu vidéo appelle tous ces commentaires critiques là où on s'interroge pas sur la violence qui peut être véhiculé dans les séries, dans le cinéma ou même en littérature. Donc on demande.
Bon, si on s'interroge aussi quand même. Enfin, il y a quand même des débats. Peut-être
oui, mais
moins...
je pense que le jeu vidéo s'est imposé des règles. Il a beaucoup travaillé pour l'information aux consommateurs, notamment avec le système PEGI, avec le système pédagogieux. Et on a essayé d'être très proactif effectivement pour donner des règles de bon usage autour du jeu vidéo. Et toutes les industries ne se sont pas imposées ces mêmes règles.
Est-ce que ces règles PEGI, vous considérez aujourd'hui qu'elles sont suffisantes? Denis Masséglia, il y a, paraît-il, Emmanuel Macron qui aurait l'intention d'étendre les pouvoirs du CSA, notamment sur la question des jeux vidéo, pas seulement, à Internet également, mais aussi sur les jeux vidéo. Et il a exprimé cette intention en particulier dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, en disant ben voilà, dans le jeu vidéo, il y a aussi des choses qui sont véhiculées et qui peuvent être tout à fait problématiques. Vous en pensez quoi, vous, Denis Masséglia?
Encore une fois, il y a du travail à faire et c'est l'objet du groupe d'études que je préside au sein de l'Assemblée. Mais sortons de cette stigmatisation. Le jeu vidéo, ce n'est pas que ça. Le jeu vidéo, par exemple, aussi, ce sont le serious gaming. Le serious gaming qui permet d'aider des personnes qui ont des problématiques de neurodégénérescence. Donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on arrête de focaliser sur un spectre extrêmement restreint du sujet. Essayons d'élargir le débat.
Mais quand Emmanuel Macron dit, voire a l'intention d'étendre les pouvoirs du CSA au monde des jeux vidéo, vous y êtes favorable ou bien vous allez œuvrer à travers votre groupe d'études pour que ça ne passe pas, ce genre de disposition?
Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis pour ou contre ce sujet. Il faut qu'on l'aborde dans le groupe d'études. Il faut qu'on rencontre des personnes qui nous apportent chacun leurs opinions, qu'on ait un débat. Et en fonction du débat, l'idée pourra être de soutenir ou pas cette idée-là.
Julie Chalmette.
Oui, si je puis me permettre, le CEL travaille beaucoup avec le CSA, vu que le CSA était membre du conseil PEGI, et à l'inverse, le CEL est membre du comité des experts pour la protection des jeunes publics. Donc on a établi un dialogue de longue date avec le CSA, et on est très heureux de continuer ce dialogue.
Marion Coville, ça change quand même par rapport justement au début de ce qu'ont été les jeux vidéo et peut-être aussi de cette prise de conscience qui était liée, vous nous disiez tout à l'heure, à un contexte où les jeux pouvaient être assez décriés par les politiques. Pour quelles raisons d'ailleurs est-ce que ça l'était? Est-ce que c'était pas aussi parce qu'il y avait peut-être un autre phénomène, des phénomènes plus économiques qui étaient derrière?
Au moment où ils étaient décriés, en fait, on observe ça avec la plupart des cultures populaires. On va l'observer aussi avec beaucoup de nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est le smartphone, par exemple. Ça, avant les jeux vidéo, ça a pu être les mangas, les séries télé. À une époque, ça a même été le roman. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus considérer que cette époque-là, elle est derrière nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, la population française est particulièrement friande de jeux vidéo. L'enquête Ludespace indiquait, par exemple, qu'en 2012, on avait 95% des enfants et des adolescents qui avaient joué aux jeux vidéo au cours de l'année, 60% des adultes. Dans le même temps, par exemple, 2016, enquête de Jean-Michel Guy sur les représentations de la culture parmi la population française, 63% des individus interrogés estiment que le jeu vidéo ne relève jamais de la culture. En aucun cas. Et donc, on a vraiment une ambivalence avec, d'un côté, un jeu vidéo qui va être soutenu par l'État en tant que bien culturel, qui va être valorisé dans les médias comme 10e art, comme patrimoine, qui va être l'objet d'expositions, et dans le même temps, il va encore être l'objet de discours qui vont le dénoncer, qui vont dénoncer ses effets néfastes supposés. Et tout ça, vraiment, ça va façonner la place que le jeu vidéo occupe aujourd'hui dans le paysage culturel. On n'a pas un discours qui va se succéder à l'autre, mais c'est vraiment l'articulation entre ces deux discours qui font la place du jeu vidéo.
Si les effets néfastes sont supposés, comme vous le dites, Marion Coville, est-ce qu'à l'inverse, on peut affirmer que les effets bénéfiques, eux, seraient prouvés par le jeu vidéo? Ou bien est-ce que finalement, on est dans la même approche, finalement, de dire soit c'est bénéfique, soit c'est néfaste? Ça revient un petit peu à dire la même chose, finalement.
Généralement, les études sur effets bénéfiques, effets néfastes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est vraiment sur cette idée d'un lien causal sur les usages et les comportements. On a, en revanche, des études aussi un peu plus larges sur jeux vidéo et sociabilité, sur le lien social, sur tout ce qui se tisse dans les jeux vidéo. Et ça, je pense que c'est des études qui sont particulièrement intéressantes, puisqu'il s'agit surtout d'aller voir ce que font les joueurs et les joueuses à l'intérieur des mondes. Comment ils échangent, comment ils et elles habitent des mondes numériques. Comment est-ce qu'ils vont former des guildes, comment ils vont se rencontrer. Et là, on a vraiment tout un tissu de relations qu'on va redécouvrir dans les jeux vidéo, par exemple.
Je vous acquiesce, Julie Chalmette.
Oui, je pense que le jeu vidéo est un formidable outil aussi pour retisser du lien, pour combler les écarts entre les générations. Enfin, jouer avec son enfant, mais aussi moi j'entends souvent des joueurs qui sont extrêmement heureux de pouvoir conserver le lien avec leur famille, avec leurs amis, au travers de parties auxquelles ils vont jouer régulièrement. Et on appartient, quand on est joueur, on appartient souvent à une communauté. Et je pense qu'effectivement, on parle souvent du jeu vidéo comme un loisir isolé, et ça l'est plus du tout. Maintenant, le jeu vidéo crée de la communication.
Mais si ça crée de la communication, si ça a des effets bénéfiques, est-ce qu'il n'y a pas aussi une exagération? Peut-être aussi parce qu'il y a un manque de légitimité de ce monde du jeu vidéo aujourd'hui, mais dans les supposés effets bénéfiques, ils ne sont peut-être pas davantage faciles à prouver que les effets négatifs, non? Ce que je veux dire, Julie Chalmette, est-ce qu'on n'est pas exactement dans la même approche de dire, ça a des effets sur le lien social?
Pourquoi demanderait-on aux jeux vidéo d'avoir uniquement des effets bénéfiques? Oui, certains jeux vidéo ont des effets bénéfiques, d'autres jeux vidéo sont du loisir, du divertissement, comme un film, comme un livre. Enfin, c'est donc dans le jeu vidéo, on va trouver effectivement des expériences qui vont vous apprendre, mais d'autres expériences qui sont là pour vous divertir, d'autres expériences qui vont vous émouvoir. Donc c'est je suis un peu surprise de cette question.
Ben non, parce que si ça a des effets, pour moi, si une pratique peut avoir des effets positifs, c'est que forcément, elle peut aussi avoir des effets négatifs. Alors, j'ai l'impression que le monde du jeu vidéo, et ce que je peux comprendre, c'est-à-dire quand il y a énormément de critiques par rapport aux effets supposés que ça peut avoir, ça peut un petit peu crisper, mais à partir du moment où on accepte le fait qu'il puisse y avoir des effets positifs, il peut aussi en avoir qui sont négatifs. Est-ce que je me fais comprendre, Denis Masséglia, ou vous êtes aussi interloqué que Julie Chalmette par
non,
ma question?
Bien entendu, et il ne faut pas non plus se voiler la face. Il y a des aspects négatifs et des aspects positifs, et là-dessus, je partage votre avis. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la seule chose que moi j'entends à chaque fois, c'est les effets négatifs. On en parlait justement avant de rentrer sur le plateau. Vous-même, vous me disiez que vous jouez avec vos enfants et que c'était un moyen de relation avec vos enfants.
Moi, je ne vous l'ai pas dit comme ça. Hein. J'ai dit qu'on avait une Wii à la maison et qu'on y jouait ensemble.
Mais exactement.
Je ne l'ai pas intellectualisé à ce point-là. Hein.
Et c'est aussi mon cas. Lorsque moi, j'ai quelques minutes à passer avec mes enfants, qui sont extrêmement rares, souvent, c'est autour de sujets d'activités qui nous intéressent tous ensemble. Et c'est bien souvent autour d'une console.
Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de légitimer finalement les jeux vidéo aujourd'hui, Marion Coville, et notamment d'en faire une pratique culturelle comme les autres, avec ses spécificités bien entendu, mais une pratique culturelle comme les autres quand même?
Je voudrais quand même revenir avant en fait sur les études que je vous ai citées. Je pense qu'on peut vraiment quitter en fait cette question des effets et la considérer vraiment comme moins centrale. Les études que je venais de vous citer sur le lien social, ce ne sont pas des études qui cherchent à tout prix, par exemple, à prouver un effet, qu'il soit positif ou qu'il soit bénéfique. C'est des études, comme je disais tout à l'heure, qui sont vraiment dans une démarche compréhensive où il s'agit avant tout d'aller essayer de comprendre une pratique dans son ensemble, d'aller essayer d'en observer les différentes facettes, de partir vraiment du discours et des pratiques des joueurs et des joueuses pour essayer de mieux comprendre cette pratique, pour comprendre le sens qu'elle a dans leur vie quotidienne. Et à partir de là, effectivement, on va observer des sociabilités qui se tissent. On va aussi pouvoir observer des rapports de pouvoir, des rapports asymétriques. Mais c'est vraiment à partir d'une enquête qui a un postulat quand même un peu plus large et qui n'est pas sur cette hypothèse a priori d'un effet, qu'il soit bénéfique ou négatif.
Et pourquoi ces enquêtes-là, elles sont plus compliquées à diffuser que d'autres enquêtes dont vous doutez davantage?
J'ai effectivement l'impression qu'elles sont un petit peu plus difficiles à diffuser. Alors là, je vais vraiment vous parler de mon expérience en tant que chercheuse, travaillant sur la représentation des femmes depuis longtemps. Je suis quand même assez souvent contactée, et en tant que présidente de l'OMNSH, on reçoit aussi beaucoup de demandes presse. C'est parfois un petit peu difficile de faire entendre ce discours sur l'intérêt en fait d'études sur les pratiques, et on est vraiment assez souvent recentré sur cette question de mais finalement est-ce que ça rend accro ou pas, est-ce que c'est quoi les effets négatifs, voire on nous pose des questions où les effets négatifs sont déjà considérés comme étant présents et actés. Et c'est vrai que tout notre travail, ça va être d'essayer de dire bah attendez, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça.
Est-ce que vous êtes confronté, Denis Masseglia, aux mêmes difficultés avec vos collègues députés, y compris ceux qui participent à votre groupe d'études jeux vidéo à l'Assemblée nationale? Vous êtes combien d'ailleurs dans ce groupe?
Nous sommes 23.
23, ce qui est une petite minorité. Bon, enfin, ça n'a pas vocation à regrouper les 577
alors,
députés.
Alors, j'entends, mais aujourd'hui, c'est un groupe d'études qui a, en moyenne, plus que les autres.
Ce sont plutôt des députés qui sont avertis de ce que représente le jeu vidéo aujourd'hui, ou qui viennent peut-être aussi par curiosité, parce qu'ils peuvent avoir des idées préconçues autour de ce domaine.
Il y a tout spectre, c'est-à-dire qu'il y a des députés comme moi qui connaissons le jeu vidéo pour y avoir joué. Il y a des députés dont ce sont les enfants qui jouaient au jeu vidéo, même un qui a été professionnel de League of Legends. Et enfin, ce sont des députés qui viennent pour découvrir, parce que c'est un sujet qu'ils ne connaissent pas, mais pour lequel il leur semble important de mettre en avant, parce qu'ils sentent que c'est l'avenir de la culture et c'est un sujet qui intéresse beaucoup notre jeunesse.
Avec quel type de préconisation à venir, sans forcément rentrer dans le détail, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que l'idée, c'est d'améliorer, par exemple, ce que serait la politique du jeu vidéo en France ?
Je pense pas que ce soit dans cette image-là, dans cette idée-là que les députés viennent. Aujourd'hui, on a une mutation importante qu'il faut entendre. C'est-à-dire que les personnes vont de moins en moins regarder TF1, France 2, France 3. Ils vont plutôt se tourner vers de la vidéo ou de l'information à la demande. Et il y a aujourd'hui sur YouTube ou sur d'autres supports tels que Twitch, la possibilité d'avoir des vidéos à la demande sur le jeu vidéo et sur d'autres domaines qui intéressent beaucoup plus une tranche de la population qui a moins de 35 ans.
Vous qui présidez le CEL, Julie Chalmette, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, quelles sont les attentes qui peuvent être les vôtres à l'égard du pouvoir politique? Est-ce qu'il y a un besoin, je sais pas, de régulation? Est-ce qu'il y a besoin d'obtenir des aides supplémentaires par rapport à celles qui existent? On va d'ailleurs en dire un mot dans un instant.
Pour revenir sur votre question précédente, nous ce qu'on...
Répondez plutôt à celle-là.
Non, mais on a constaté depuis un certain nombre d'années que le dialogue est de plus en plus fructueux avec les pouvoirs publics, dans la mesure où on n'est pas toujours obligé de réexpliquer par la base ce qu'est le jeu vidéo, quels en sont les enjeux. Il y a une assez bonne compréhension désormais avec nos interlocuteurs des pouvoirs publics de ce qu'est le jeu vidéo, qui se situe à mi-chemin entre la création artistique mais aussi l'innovation technologique. Et donc il y a pas mal de mécanismes d'aide aux jeux vidéo qui ont été mis en place ces dernières années. Le fonds d'aide aux jeux vidéo qui est géré par le CNC, le crédit d'impôt jeux vidéo qui vient d'être augmenté, qui a été porté il y a deux ans de 20 à 30%. Donc il y a des mécanismes d'aide dont on est très satisfait, et on est très heureux aujourd'hui de voir que le dialogue avec les pouvoirs publics s'intensifie avec des gens qui sont assez connaisseurs. Et la preuve en est qu'on a un député qui est expert de jeux vidéo.
Crédit d'impôt qui permet aux entreprises de création de déduire de leur impôt une part des dépenses de production de jeux. C'est pourtant un domaine qui se porte extrêmement bien aujourd'hui, le jeu vidéo. Est-ce qu'il a besoin d'être soutenu à travers une politique fiscale particulière ?
Oui, je pense qu'il faut encourager. Le jeu vidéo deviendra le divertissement du 21e siècle. Il faut encourager la production en France. Il faut encourager toutes les formes de production. Le jeu vidéo est très protéiforme. Il faut savoir qu'un jeu vidéo peut se créer seul dans sa chambre, mais aussi avec dans des équipes, dans des studios de jeux qui comporteront plusieurs centaines de personnes. Donc oui, il faut encourager la création et la création française, absolument.
Alors, quand on essaie de faire l'histoire de ce qu'a peut-être pu être la prise de conscience dans le domaine politique de l'importance qui peut être celle du jeu vidéo, il ne faut pas remonter très loin. C'est normal, puisque les jeux vidéo sont assez récents. On est en 2002, le 15 novembre, dans le studio Darkworks, et un certain Jean-Pierre Raffarin fait une visite dans ce studio.
Darkworks est un survivant. C'est l'un des 40 derniers studios de création de jeux vidéo en France. L'année écoulée a en effet été fatale au secteur. Un quart des sociétés de développement, 14 en tout, ont mis la clé sous la porte. Ici, pas de dépôt de bilan, mais plus de 10% des salariés licenciés.
Très clairement, les lignes de crédit se ferment, les emprunts deviennent difficiles, voire impossibles, et les investissements ont ralenti jusqu'à être quasiment inexistants.
Pour soutenir ces professionnels du jeu vidéo, le gouvernement envisage de garantir certains emprunts. Autre mesure effective, celle-là, une aide financière va être apportée dès janvier.
Je vais renforcer le fonds d'aide aux éditions multimédia en le dotant de 6 millions d'euros pour l'année 2003 et pour faire en sorte qu'on puisse aider les entreprises en amont, dans l'intelligence, dans la pré-production, c'est-à-dire au moment où on conçoit les choses.
Extrait d'un reportage diffusé dans le JT de TF1, c'était le 15 novembre 2002. Marion Coville, est-ce que la difficulté qu'a le jeu vidéo aujourd'hui à acquérir cette légitimité comme activité culturelle à part entière, elle n'est pas liée aussi aux conditions dans lesquelles le politique est intervenu, c'est-à-dire peut-être d'abord pour sauver un secteur, enfin en tout cas pour aider un secteur considéré comme un secteur économique ? Avant tout, davantage que culturel.
Alors, en fait, la prise en compte du jeu vidéo par les pouvoirs publics, elle remonte quand même un petit peu plus loin.
Ah ben, c'était pas le bon extrait.
Comme on discutait tout à l'heure, effectivement, il y a eu aussi tous ces enjeux de régulation avec le système PEGI. Mais dans les années 90, on a commencé déjà à avoir une politique envers les jeux vidéo et un intérêt envers les nouvelles technologies et le jeu vidéo pour la médiation culturelle et pour la culture. C'est notamment lié au fait que Jack Lang était Premier ministre, on a eu l'agence Octet pour les nouvelles technologies. Puis dans les années 90, par exemple, on a la Réunion des musées nationaux qui crée des partenariats avec une entreprise de jeux vidéo, Cryo, pour créer des jeux vidéo qui font la médiation du patrimoine culturel français, par exemple. Et dans les années 2000, on a effectivement ce moment de crise du secteur du jeu vidéo avec une forte mobilisation professionnelle, donc des professionnels du jeu vidéo qui se battent pour la reconnaissance de leur activité et pour le soutien à leur activité, alors qu'on a effectivement beaucoup d'entreprises qui vont déposer, il y a énormément de dépôts de bilan à ce moment-là. Et effectivement, on va avoir du coup les pouvoirs publics qui vont commencer à élaborer un soutien public financier à ce secteur. Et effectivement, la question du secteur, est-ce que c'est un secteur industriel, est-ce que c'est un secteur culturel, elle se pose au moment où on a cette fameuse création du crédit d'impôt jeux vidéo qui va être étudiée en fait par la Commission européenne qui soupçonne en fait ce crédit d'impôt de n'être finalement qu'un levier pour soutenir une industrie et qui a besoin de s'assurer que les jeux vidéo représentent un bien culturel et ne seraient pas seulement, entre guillemets, un bien marchand. Et c'est à ce moment-là qu'on va observer en fait toute une politique de valorisation culturelle du jeu vidéo par les pouvoirs publics. Ça va être notamment Renaud Dodieu de Vabre qui va remettre l'insigne de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres, ouh là là, c'est dur à dire, à Frédéric Rénal, à Michel Ancel, pour valoriser, qui sont des concepteurs de jeux vidéo. Michel Ancel est connu pour Rayman, par exemple, et qui va vraiment les valoriser comme des auteurs de jeux vidéo. On a vraiment une politique des auteurs comme on a pu l'avoir au cinéma. Et en même temps, le crédit d'impôt jeux vidéo va se voir attribuer des critères culturels qui sont censés justement départager l'idée qu'on aurait d'un côté des jeux vidéo et de l'autre côté des jeux vidéo culturels.
Ce dispositif très complet que vous venez de nous expliquer, Marion Coville, de soutien au secteur, est-ce que vous le trouvez toujours pertinent, Denis Masseglia, ou bien est-ce qu'il y a aussi des choses à revoir qui pourraient faire l'objet de préconisations dans le cadre de votre groupe d'études ?
Aujourd'hui, j'ai échangé avec de nombreux industriels culturels, je dirais, et ils sont satisfaits de ces différents dispositifs. Donc, bien sûr, au travers du groupe d'études sur les jeux vidéo, on va l'analyser, réfléchir, mais il n'y a pas de raison qu'il soit remis en question, il n'y a pas de raison qu'on change quelque chose qui fonctionne bien.
Vous êtes d'accord avec ça, Julie Chalmette ?
Absolument.
Rien à changer. Est-ce qu'on pourrait peut-être envisager, je ne sais pas moi, que du point de vue par exemple de la TVA, si c'est un produit culturel comme un autre, est-ce qu'il n'y a pas de demande pour que les jeux vidéo soient traités comme le livre ? Vous évoquiez tout à l'heure Jack Lang. Jack Lang, c'est notamment le prix unique du livre. Alors il ne s'agit pas d'imposer peut-être un prix unique sur les jeux vidéo, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des aides un peu plus particulières, Denis Masseglia ?
Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille faire un lien entre le livre et le jeu vidéo. le livre reste...
Pourtant, il y a une compétition entre les deux produits. Hein, et dès que les jeux vidéo vont bientôt dépasser le secteur de l'édition.
Ça sera le cas avant la fin du mandat qui est le mien, c'est-à-dire avant 2022. Mais le livre est un bien qui est souvent physique et qu'on va acheter à la librairie. Aujourd'hui, le jeu vidéo, la plupart des jeux vidéo sont dématérialisés et parfois même sur des plateformes qui ne sont pas françaises. Quand je veux acheter un jeu, moi je vais sur des plateformes qui sont principalement américaines. On est dans une industrie qui est complètement mondialisée. Et ça, il est important que le politique le comprenne et qu'il ne fasse pas une volonté de faire des lois qui mettent des murs pour empêcher que les jeux vidéo étrangers viennent en France. Mettre des murs, ça bloquera tout ce qu'il peut y avoir. C'est une industrie mondialisée, on doit la prendre en tant que telle.
Julie Chalmette.
Oui, non, je m'inscrivais un peu en faux contre cette idée qu'on était en compétition contre le livre de manière générale.
Mais c'est une compétition tout à fait amicale,
oui,
bien entendu.
Amicale, exact. Mais je trouve plus intéressant aujourd'hui avec le jeu vidéo de créer des passerelles avec d'autres domaines de la création, que ce soit la musique, la littérature. On a par exemple essayé au CEL de créer un concert symphonique autour du jeu vidéo. Et on trouvait vraiment notre désir, c'était de créer des passerelles entre ces différents publics, des gens qui sont habitués à aller dans des... écouter de la musique classique.
C'est-à-dire que ce sont des musiques qui sont utilisées, enfin qui sont produites pour les jeux vidéo.
Absolument.
Et qui sont jouées par un orchestre symphonique.
Et qui ont été interprétées par un orchestre symphonique. Et on trouve intéressant que les publics se rencontrent justement et qu'une personne qui ne connaît pas le jeu vidéo puisse réaliser à quel point la richesse de la production, la richesse de la création à l'intérieur d'un jeu vidéo. Et pourquoi pas, si on peut amener des jeunes joueurs pour la première fois dans un auditorium classique, on est très heureux de ça.
Marion Coville.
Dans pas mal de politiques culturelles qu'ont eu par exemple les musées ou d'autres lieux, effectivement, l'usage du jeu vidéo, c'est aussi l'idée de pouvoir attirer un jeune public, attirer les 15-25 ans avec une pratique dont ils sont friands et qu'on pourrait aussi utiliser comme un vecteur de médiation culturelle. Donc le jeu vidéo aujourd'hui, il va être utilisé par exemple comme une sorte de dispositif de médiation pour parler de patrimoine, pour présenter des expositions, pour découvrir des musées autrement, par exemple en créant un jeu de piste ou un jeu d'enquête à travers le musée. Et aujourd'hui, c'est vrai que le jeu vidéo, il est considéré aussi comme un vecteur qui peut faire venir peut-être de nouvelles populations ou les réintéresser à des lieux culturels. Je pense notamment, par exemple, aux médiathèques qui aujourd'hui ont une politique d'acquisition du jeu vidéo et de matériel de jeu vidéo qui me semble extrêmement intéressante, puisque non seulement il s'agit de proposer cette pratique dans les espaces des médiathèques, de faire une pratique collective du jeu vidéo, mais en plus elles permettent du coup aussi de favoriser d'avoir du jeu vidéo pour des personnes qui n'ont pas forcément l'argent d'acheter le matériel de jeu et d'acheter les jeux vidéo.
Mais est-ce que cette approche elle est attendue par l'ensemble du secteur du jeu vidéo ? Et bien, est-ce qu'il peut y avoir également des craintes, c'est-à-dire que cette légitimation pousse à une trop forte institutionnalisation ? On l'a vu dans d'autres pratiques culturelles, notamment par exemple le hip-hop, où on sait que certains considèrent que peut-être que l'institutionnalisation va trop loin. Est-ce que cette crainte, elle existe aussi dans le secteur du jeu vidéo, Marion Coville ?
Il y a effectivement...
Quand un art rentre au musée, on peut aussi considérer qu'il...
Quand un art rentre au musée, il provoque de toute façon des tensions. Avec le jeu et le jeu vidéo a fortiori, on va effectivement le remarquer dans un musée. On va voir par exemple la peur de certains responsables que les publics jouent trop quelque part, que leur comportement déborde un petit peu les cadres qui ont été compris. Mais moi je trouve que c'est une question qui est éminemment politique, puisque quand vous faites rentrer le jeu vidéo, quand vous faites rentrer le jeu dans une institution, vous posez aussi, d'une part, la question de la définition de la culture, mais vous posez aussi vraiment une question de politique des publics. Quelle place vous accordez à votre public? Quelle liberté d'action vous leur donnez? Et ça, pour moi, c'est une question qui est passionnante.
Alors justement, sur la définition de la culture, il y a un projet qui doit être mis en œuvre à partir de la rentrée dans 4 départements, ce sera en septembre, avant d'être étendu à l'ensemble du pays, de Nima Seglia. C'est le Pass Culture qui permettra à chaque jeune Français de 18 ans d'avoir un pass de 500 €. Est-ce qu'il faut, selon vous, que avec ce pass culture, on puisse acheter des jeux vidéo? Si ça fait partie d'une pratique culturelle, la réponse, ça devrait être oui.
Pour moi, la réponse, elle est claire, c'est oui. Comme l'a dit Madame Coville, le jeu vidéo est une culture qui est quand même assez cher, faut dire ce qui est. Un jeu, c'est souvent entre 50 et 70 € de console. Cette d'argent permettrait justement à des enfants qui sont parfois dans des cités, qui ont des difficultés financières, de pouvoir avoir comme leurs voisins le jeu pour pouvoir y jouer. Parce que vous savez comment ça se passe. Quand on retourne à l'école, on parle de ce qu'on a fait le week-end. J'ai joué à tel jeu, j'ai joué à tel jeu, j'ai fait telle activité. Ça permet de ne pas se sentir exclu des personnes qui sont autour de nous.
Je rappelle que vous êtes député de La République En Marche, donc vous devez avoir quelques informations qui vous arrivent du côté du ministère de la Culture et de Françoise Nyssen. Est-ce que vous savez si on pourra, alors vous êtes favorable à ce que l'on puisse acheter des jeux vidéo, mais est-ce que vous savez si on pourra le faire dans le cadre de ce Pass Culture ?
Aujourd'hui, je n'ai pas l'information sur votre question.
Julie Chalmette, vous y seriez favorable ?
Pourquoi pas ? Jusqu'à maintenant, on n'a pas été consulté sur cette question. On est prêt à ouvrir le dialogue avec les pouvoirs publics.
Marion Coville, ça devrait, si je vous ai bien écouté, rentrer totalement dans le cadre de ce Pass Culture.
Je ne connais pas suffisamment les modalités du Pass Culture pour répondre. Moi, je reste vraiment sur cette idée, par exemple, sur un exemple qui me semble vraiment intéressant des médiathèques qui justement favorisent aussi une pratique collective qui n'est pas forcément une acquisition personnelle, mais qui est une mise à disposition dans le cadre d'un service public qui me semble assez intéressante.
Il y a un dossier qu'on n'a pas encore évoqué, ce sera le dernier avant la fin de cette émission, qui fait partie des chantiers sur lesquels vous travaillez, Denis Masséglia, dans le cadre de votre groupe d'études jeux vidéo, c'est celui de l'addiction, le trouble du jeu vidéo, qui devrait être bientôt reconnu comme maladie par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. On attend la décision pour le mois de juin. Vous en pensez quoi ?
Aujourd'hui, aucune étude prouve que c'est une addiction. Je dirais qu'il y a même des études qui disent que c'est le cas, mais elles ne sont pas forcément bien construites. D'autres disent que ce n'est pas le cas, mais elles ne sont pas, à mon sens, bien construites.
J'imagine en même temps que l'OMS ne prend pas des décisions à la légère comme ça et se base sur un certain nombre de...
Aujourd'hui, les éléments qui sont mis en avant sont discutables. Voilà, ils sont discutables. Donc, ça sera justement l'objet du groupe d'études de jeux vidéo de se pencher sur l'ensemble des arguments qui soient... qui mettent en avant justement cette notion d'addiction ou inversement, essayer d'avoir une réflexion et quelque part, d'un moment donné, de pouvoir se positionner sur oui, ça l'est, non, ça l'est pas, ou peut-être c'est entre les deux.
Le trouble du jeu vidéo inscrit dans le répertoire des maladies reconnues par l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est quelque chose qui vous inquiète, Julie Chalmette ?
Oui, absolument, ça nous inquiète énormément. On n'a absolument pas envie, en tant qu'industrie, de se retrouver coincé entre l'addiction à l'alcool et aux drogues. Comme le disait Denis Masséglia, on n'a pas d'études concordantes sur ce sujet, donc on est évidemment, ça nous inquiète.
Mais c'est une inquiétude qui est quoi ? Enfin, une inquiétude économique, c'est-à-dire vous vous inquiétez de l'impact que pourrait avoir une telle classification sur un secteur qui, je le disais en tout début d'émission, est en très très bonne forme aujourd'hui, que ce soit au niveau mondial et également au niveau français.
Non, c'est pas une inquiétude économique, c'est plus une inquiétude d'ordre sociétal, ça nous attriste. Voilà.
Marion Coville, sur cette question de l'addiction, même si ce n'est pas exactement le sujet sur lequel vous travaillez, mais est-ce que finalement on revient encore là aussi à des problèmes de légitimité
On revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur les études qui sont largement prises en compte et qui appartiennent à une culture épistémologique très, très particulière. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus dans la communauté scientifique sur l'idée d'une addiction aux jeux vidéo. Sur ces questions-là, je vous invite par exemple à aller regarder un petit peu les travaux de mes collègues qui officient plutôt en psychologie, que ce soit Thomas Garon, Michael Stora, Yann Leroux, qui sont d'ailleurs mobilisés sur cette question. Et certains membres du collectif vont plutôt s'inquiéter d'une médicalisation de nos usages numériques.
Bon, on verra bien si au mois de juin, comme c'est a priori annoncé, l'Organisation Mondiale de la Santé inscrit malgré tout cette pathologie, disons, ce trouble du jeu vidéo dans la nomenclature des maladies qu'elle reconnaît à l'échelle mondiale. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Marion Coville, Julie Chalmette et Denis Masséglia, discussion que vous pouvez retrouver sur notre site internet franceculture.fr, la page du grain à moudre. Merci à l'équipe du Grain, Prune 16, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Fanny Richet et Antoine Dulster. Émission réalisée par Lise Combe avec à la prise de son Audrey Guélil.